Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Vous êtes dans un centre d'hébergement d'urgence qu'on a appelé le centre d'hébergement d'urgence La Rochefoucauld parce que c'est le nom de l'endroit. Et donc comme toujours chez Aurore, on prend le nom des lieux dans lesquels on s'installe. Donc c'est un centre que nous avons ouvert en juin 2019, qui accueille principalement des femmes sortant de maternité, sans solution d'hébergement, donc des femmes qui sont à la rue avec leur bébé, qui viennent juste d'accoucher. Donc c'est le troisième dispositif qu'on ouvre de la sorte ici, avec la particularité, je suppose que vous l'avez vu, c'est ce magnifique jardin dont nous profitons avec trois poules qui habitent avec nous à la fois ces jardins et ce lieu. On a aussi des familles, des enfants qui sont là, pour ceux qui ont eu la chance d'assister à un petit concert d'accueil. Voilà, ce sont des femmes assez extraordinaires qui ont vécu et qui sont là, juste derrière. On les a invitées à venir, mais certaines sont présentes, d'autres pas, qui ont vécu parfois un long parcours d'exil, qui se sont retrouvées dans des situations assez inextricables, que nous sommes ravis d'accueillir, évidemment. Mais nous sommes aussi là ce soir pour parler de la ville accueillante au cœur de Paris. On est dans le 14e arrondissement. La ville accueillante, c'est aussi faire cet effort, effort de solidarité, qui, malgré nos envies et notre volonté, reste tous les jours un défi. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, la mise à l'abri est une compétence de l'État en France et il faut le défendre. Compétence de l'État, ça veut dire que en France, on ne laisse pas quelqu'un dormir à la rue. On laisse encore moins un bébé dormir dans la rue, mais c'est une compétence de l'État et c'est l'État qui finance. Aujourd'hui, ceci est loin d'être une réalité puisque tous les jours, vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui sont encore et qui dorment dehors. La réalité, elle est celle-ci, elle n'est pas très agréable, ni l'hiver, ni l'été, ni jamais. Ce que nous avons réussi à réaliser avec Plateau Urbain et Yes We Camp au Grand Voisin, c'est aussi une expérience unique qui est d'ouvrir les lieux que nous avons sur nos territoires. L'ouvrir, ça veut dire l'ouvrir à vous. Et vous pouvez venir débattre et rentrer sur ces sites. Vous pouvez aussi les visiter. Mais c'est aussi tenter d'essayer de défendre avec vous, citoyens, cette possibilité-là. D'avoir des espaces où nous pouvons construire, tisser du commun. Et quelque part, continuer à reposer la question du commun, le sens de ce commun-là. Qu'est-ce que nous y mettons ? Pourquoi, finalement, ce commun ne tient que pas grâce à vous, grâce à nous ? C'est-à-dire que les murs, il y a des murs invisibles là, on les met à l'abri, mais il y a un autre mur qui est fondamental, c'est la protection de la solidarité nationale, sans laquelle, nous ne pouvons pas exister et ces personnes-là ne peuvent pas être mises à l'abri, concrètement. Ils vont être remis à la rue fin mars, puisque nous fermons fin mars, puisque c'est un espace que nous ouvrons de manière temporaire. Donc je remercie nos invités, je remercie Aurore de Yes We Camp, que j'ai appris à connaître ces dernières années. C'est un travail extraordinaire que Yes We Camp fait, que j'ai découvert, puisque je viens du milieu du social et que souvent on a l'impression et le sentiment que ce n'est qu'une tirette à bière, c'est comme ça qu'on peut dire. Bon, la réalité, c'est que ces relations qu'ils tissent avec les hébergés, avec les personnes que nous accueillons au Grand Voisin, sont fondamentales pour permettre de recréer cette capacité du lien. C'est des personnes qui, dans le parcours d'exil ou dans la période de temps qu'ils ont vécu en grande précarité ou à la rue, peuvent perdre, et nous pouvons perdre, hein, cette capacité de créer du lien. Et je crois que cette alternative des Grands Voisins, c'est aussi avoir ces tiers aidants, ce que j'appelle moi des tiers aidants. Ce ne sont pas des travailleurs sociaux, ce ne sont pas des professionnels de la santé, ce ne sont pas des professionnels du monde social. Et justement, peut-être que c'est parce que ils ne viennent pas de ce monde-là, ils arrivent à recréer, comme tout citoyen, des liens nécessaires qui peuvent, et qui, je le sais, permettent aux personnes de repartir, en tout cas de continuer à se battre. Et continuer à se battre, c'est aussi avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes, ce qui est une énorme difficulté aujourd'hui, puisque la première barrière, c'est l'isolement. Des personnes qui sont isolées ne peuvent pas recréer du lien. Donc,
plateau urbain, que je remercie aussi. Alors, je mène un projet avec eux dans le 8e arrondissement, donc j'ai encore mieux appris à les connaître. Et sans eux, on ne pourrait pas trouver ces lieux. Et sans cette énergie et synergie, on ne pourrait pas aussi repenser et penser l'avenir. Donc je remercie aussi Thomas, mais qui va être présenté par vous. Donc je vous laisse la parole et merci encore d'être là. Moi, je suis Siam Abchine, directrice d'activité pour l'association Aurore.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Angèle de l'Amberterie de Plateau Urbain. Merci beaucoup d'être là ce soir. Un grand merci à l'association Aurore de nous accueillir ici à La Rochefoucauld et de participer à l'organisation de ce séminaire. Merci Emeric et Zofia et Siem. Donc c'est un séminaire Métamorphose et devenir des lieux tiers qui est organisé par l'association Aurore, Plateau Urbain, la Preuve par 7 et la Radio Cause Commune. Donc ce soir, on parlera du thème Accueillir en ville. Après la discussion, il y aura le vernissage de l'exposition Forêt Escargot qui se situe dans le jardin. Donc ne partez pas trop vite après la discussion. Et donc ce soir, pendant cette discussion qu'on espère un peu interactive, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions ou à des remarques. On essayera d'interroger la capacité d'accueil et d'hospitalité de tous ces lieux qu'on dit tiers ou hybrides, à l'heure où les métropoles sont plutôt synonymes de rejet que d'accueil, à l'heure où dans l'espace public se multiplient des dispositifs de rejet, à l'heure où pour accéder à des locaux on rencontre des discriminations de toutes sortes, que ce soit pour habiter ou pour travailler, et à l'heure où aussi se multiplient des lieux hybrides ou tiers. Est-ce que ces lieux sont des lieux d'hospitalité? Comment faire hospitalité? Et voilà, c'est un peu ce qu'on interrogera ce soir. Donc je vais laisser Paul présenter nos intervenants. Merci beaucoup d'être là.
Bonsoir, merci Angèle. Pour essayer de continuer à porter une pensée critique collectivement sur les lieux tiers, ce qui est l'objet de ce séminaire, on a voulu interroger la notion d'accueil, vu que les lieux tiers sont souvent vus, dits, pensés, peut-être fantasmés comme des lieux accueillants. Et pourtant, l'accueil, ça suppose différentes. Il y a différentes manières d'accueillir, il y a différents objets, il y a différents outils, il y a différents objectifs. Et donc, pour en parler, pour évoquer ces différentes manières d'accueillir, on a voulu inviter Aurore Rapin. Aurore Rapin qui donc travaille dans l'association Yes We Camp, qui est architecte et qui notamment a été une des chevilles ouvrières du projet des Grands Voisins. D'autre part, Thomas Coudrette. Thomas qui aujourd'hui travaille au sein de l'agence Intercalaire qui mène des projets d'urbanisme solidaire à Toulouse, et qui a également un lourd passé de militant associatif en faveur notamment du droit au logement, et donc dont l'expérience permettra d'établir les différentes manières d'accueillir, les différents types d'accueil, de lieux, également de montage, vu que l'objet de ce séminaire, c'est aussi de rentrer dans la mécanique de ces lieux tiers pour les interroger. Donc, Aurore, je vais peut-être te laisser la parole pour te demander de présenter en quelques minutes, ce qui, pour toi et pour ton association, fait accueil et donc comment est-ce qu'on institue la ville accueillante. Ça se décrète pas forcément, ou en tout cas je sais pour avoir travaillé à tes côtés que c'est plus compliqué peut-être que ça en a l'air.
Bonsoir. Alors du coup je représente l'association Yes We Camp. Si je dois répondre à la question de ce que ça veut dire accueillir pour nous, je pense que c'est des choses assez simples sur... Parce qu'on parle beaucoup de lieux, mais en fait tous ces lieux-là et la manière dont ils sont constitués, c'est des humains derrière, comme vous et nous, qui habitons quelque part, qui avons un toit pour dormir, un endroit pour manger, un endroit où on a envie de partager des choses avec les gens qui nous entourent, nos proches, parfois de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents de soi. Et du coup, je pense que dans les choses qui nous animent, nous, dans l'asso, c'est surtout savoir comment on arrive à incarner tous ces grands mots de solidarité, tous ces grands mots d'accueil dans la politique du quotidien, quoi. Donc comment on fait chacun soi pour que dans sa pratique et son mode d'habiter, on incarne ces valeurs-là. On a commencé, nous, par un projet un peu fou, sans aucun salarié, de construire un camping en 2013 sur les quais de la Lave à l'Estac, à Marseille, pendant la capitale urbaine de la culture. Et l'idée, c'était de se dire, OK, il y a un gros événement national, enfin, voire européen, qui se passe. Comment on fait pour accueillir les personnes qui vont venir visiter la capitale? Donc, comment on les loge, comment on se douche, comment on mange? Et puis comment ça peut servir aussi des quartiers de Marseille qui sont aujourd'hui pas représentés dans les hotspots de là où l'argent de l'Europe va. Donc c'était un projet du OFF et on a construit, enfin, on a imaginé, construit, géré et vécu sur un terrain pendant 7 mois pour accueillir les touristes dans les quartiers nord. Donc ça a commencé comme ça par un camping où du coup ça pose des choses de relations individuelles plutôt assez simples parce qu'on n'a pas nos costumes, on est tous en vacances ou tous dans des manières d'être aux autres un peu différentes, peut-être plus dilettantes, mais en tout cas ça enlève des barrières. Ensuite, à l'issue de ça, il y a eu plusieurs projets plus petits qui sont venus plutôt de la part d'institutions, plutôt écoles d'art ou instituts ou labos d'art contemporain, qui nous ont dit « bon, ben voilà, on a une biennale, on veut un lieu de convivialité ». Là, on a une grande place sur 3 tours qui ont été démolies. Est-ce que vous pouvez venir ? Et on s'est retrouvés en fait à fabriquer des endroits qui fabriquaient de l'habiter en commun. Du coup, dans des endroits où les gens ne voulaient pas trop aller, où il y avait un peu de défiance, où il y avait un peu de défiance vis-à-vis de certaines communautés entre elles ou vis-à-vis des institutions sur un certain endroit. Puis un jour, on a reçu un mail de la maire du 14e arrondissement de Paris qui nous dit... voilà, j'ai un terrain, c'est plus grand que votre camping à l'Estac. Il y a déjà une association qui s'appelle Aurore qui est installée sur le site avec 120 personnes. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour voir comment on va faire ? Il se trouve qu'on a su par la suite que c'était la cousine de la mère qui était bénévole au camping de l'Estac qui a conseillé de regarder ce qu'on faisait. On l'a appris il y a très peu de temps. Donc comme quoi, ça tient vraiment aux humains et pas des étiquettes qu'on se colle sur les fronts. Donc on a répondu, on est venu voir, on a discuté avec Aurore, il y avait Plateau Urbain aussi, on a monté un projet et puis on y allait. Donc on est venu à 3, il y avait déjà une partie de l'équipe qui arrivait sur site et puis on a du coup commencé à installer notre logement. Donc on a nettoyé un des apparts de fonction qui était vraiment, vraiment dégueu et on s'est installé dedans. Et puis il y avait 120 personnes à côté de nous, on a commencé à bricoler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'informel et puis la vie au quotidien. On était là sur le site très tard le soir, très tôt le matin, à des heures qui sont les heures du quotidien quand tu habites quelque part, quoi. Voilà. Et puis ça s'est construit petit à petit et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On n'aurait jamais imaginé que ça puisse devenir ça, en tout cas que ça ait cette portée-là ou cette écho-là. Voilà. Je ne sais pas si je réponds un peu.
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Bonsoir. Donc, je suis Thomas Coudrette de l'agence Intercalaire. Donc, l'agence Intercalaire, en fait, c'est un acteur toulousain qui est relativement récent, notamment par rapport à Yes We Camp ou Plateau Urbain, mais dont l'histoire remonte à quand même à peu près presque 10 ans. À l'époque, en fait, le préfet avait déclaré qu'il n'y avait plus de place pour les grands précaires en ville et qu'il allait falloir commencer à trouver des solutions dehors de la ville. Donc à Toulouse, c'est une exception, mais les gens qui travaillent au 115, au SIAO, tout ça, sont des fonctionnaires rattachés à la ville. Et donc du coup, ils l'ont pas pris pour argent comptant. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de solution? Le préfet a dit, bon ben moi j'en trouverai pas. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous débrouiller. Et il a été pris à la lettre en fait par les travailleurs sociaux qui ont dit, bon ben on va chercher des solutions. Il y a eu une rencontre entre les squatteurs et les travailleurs sociaux du 115 qui a amené à la réquisition d'un bâtiment public qui appartenait à l'État et au ministère des Solidarités. Donc il y a eu une bataille judiciaire sur ce bâtiment qui a été plutôt gagnée, en tout cas sur le référé. Et ensuite, il y a eu du coup un lieu qui a été créé, pérennisé, pour 25 grands précaires qui vivent d'ailleurs toujours là-bas. Enfin, malheureusement, plus les mêmes, mais il y a toujours du monde là-bas. Du coup, on a ensuite enchaîné, on s'est dit on va pas s'arrêter là. Et on est rentré dans une campagne de réquisition de bâtiments publics avec l'idée de faire évoluer les cultures en disant bon, c'est pas possible d'avoir un préfet qui dit bon, bah, je trouve pas de bâtiment alors qu'il a lui-même des bâtiments d'État vacants, et puis qu'il y en a encore plus parmi les collectivités locales, les hôpitaux, etc. Et donc on s'est dit qu'on se lançait dans une campagne de réquisition. On a d'abord essayé avec, disons, des mouvements plutôt autogestionnaires, etc., avec lesquels on avait pas mal d'affinités, mais en même temps avec lesquels on a rencontré des difficultés que je ne vais pas forcément détailler là, mais en tout cas des différents, puisque nous, on était vraiment sur une éthique de travailleurs sociaux. C'est un peu une des originalités de cette campagne de réquisition, c'est qu'on était sur des valeurs et une logique et une éthique de travailleurs sociaux. Donc pas quelque chose de très idéologique, quelque chose de tout à fait humain, quelque chose de politique aussi, mais pas d'idéologique. Et donc on a eu des différences sur les priorités. Donc on a essayé après avec d'autres associations comme le DAL, etc., où on s'est rendu compte qu'on avait aussi des différends avec eux. On s'est dit, bon, ben, finalement, ce qu'on veut faire tel qu'on veut le faire, ça n'existe pas. D'ailleurs, en l'occurrence, je pense que dans la plupart des villes aujourd'hui en France, ça n'existe toujours pas. Et donc on a créé un autre truc qui s'est appelé le C10, le collectif d'entraide et d'innovation sociale, qui n'avait aucune vocation d'ailleurs à devenir structuré, qui n'est toujours pas, mais qui a mélangé des professionnels de la solidarité et des citoyens et tous ceux qui se sentaient concernés et des personnes directement concernées. Et on a du coup défini un plan de bataille pour faire évoluer les cultures. On s'est dit, bah, c'est avant tout la responsabilité de l'État, donc on va squatter les bâtiments de l'État, puis des collectivités locales, puis des bailleurs sociaux, puis des hôpitaux, puis après on verra quoi. Et on a fait ça, on a suivi le plan. Du coup, ça nous a permis de rencontrer chacun des acteurs, parce qu'une fois qu'on le squatte, bah, ils se sentent un peu plus concernés par le sujet. Et puis en plus, assez rapidement, la mairie a salué notre capacité à avoir un vrai projet social tout en conservant des rapports de voisinage très corrects. Donc du coup, même la mairie a appelé la préfecture pour soutenir la campagne de réquisition en disant bah, « ils étaient chez nous, ça s'est bien passé et tout ». Donc on a pu finalement dérouler pas mal de réquisitions. Et donc en prenant ce biais-là, finalement, on a fait évoluer les cultures. Et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un acteur pour accompagner les propriétaires. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie de créer des lieux, il y avait une incapacité des propriétaires à le faire. Et donc on s'est dit, bah tiens, faudrait créer quelque chose. Donc vu qu'on regarde toujours ce que font les autres avant de créer quelque chose de nouveau, et on s'est intéressé à cette époque-là aux grands voisins. Et on est venu rencontrer du coup à Paris Aurore et Plateau Urbain. Et du coup, ça nous a pas mal inspiré. On a créé du coup cet acteur qui est du coup pour le coup tout à fait légal, une coopérative, etc. Et qui du coup permet d'accompagner les propriétaires quand ils commencent à en avoir envie sur la création de lieux. Mais donc du coup, de par notre histoire, on va dire qu'on est très ancré sur les questions d'accueil, d'inconditionnalité. C'est-à-dire que pour nous, c'était impensable d'arrêter d'ouvrir des squats si on n'était pas dans l'inconditionnalité, si on n'était pas dans une vision très large des personnes, des projets, à la fois sur la question de l'hébergement, mais aussi sur les questions culturelles, politiques, etc. Et donc, du coup, on a vraiment ancré la lutte contre les exclusions et cette diversité dans notre approche. Et aujourd'hui, on réussit à faire une forme de grand écart. En tout cas, on s'y retrouve, justement, d'être toujours dans la proposition. On a aujourd'hui des missions à la fois pour l'État ou la métropole. Et en même temps, on est toujours très proche du milieu squat. Demain, je vais à la Maison du Peuple avec les Gilets jaunes qui envisagent de légaliser un lieu. Enfin, donc on est aussi non seulement dans l'inconditionnalité de l'accueil sur les questions administratives, etc., mais aussi l'inconditionnalité en termes politiques, c'est-à-dire qu'on fait encore des choses avec le DAL, on fait encore des choses avec les autogestionnaires. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas faire ensemble. On repart de ce qu'on a en commun, c'est-à-dire au lieu de se chamailler tout de suite sur de la politique, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, j'ai pas envie qu'il vive dehors, j'ai pas envie qu'il meure de faim, j'ai pas envie qu'il soit malade. Donc du coup, en fait, on a décidé de mutualiser plein de choses pour mieux revenir à ce qu'on a tous en commun, avant de chercher à nouveau à faire des choses politiques. Et donc, bah, ça nous fait un socle commun pour faire des choses politiques avec des fois la ville, des fois les Gilets jaunes, des fois, enfin, voilà, on reste extrêmement ouvert et c'est une inconditionnalité politique, mais qui pour nous est vraiment ancrée dans les lieux qu'on veut animer.
Cause commune, des conférences
Merci,
comme si vous y étiez.
Pour ces deux témoignages. Et du coup, moi j'ai une question. À partir du moment où tu arrives à ouvrir un espace, un lieu en dehors du marché immobilier et qui arrive à accueillir ce que le marché n'arrive pas à accueillir, comment tu passes de ce moment où en fait où tu arrives à ouvrir ce lieu à vraiment l'hospitalité qui se définit pas que comme ouvrir un centre d'hébergement ou ouvrir un squat, mais il y a aussi derrière tout un enjeu, soit en termes de programmation, d'activité, d'aménagement. Donc je sais pas, là peut-être si Aurore, tu veux nous dire comment vous, Yasuika, un peu grand voisin, ou dans d'autres expériences que les grands voisins, vous avez aussi travaillé sur cette question de l'accueil, même une fois que le lieu est ouvert, en fait, même après que les gens se soient installés et dorment là.
Du coup, c'est peut-être un peu étrange, mais du coup, moi, je pense que ça passe déjà par l'envie d'y être soi. Donc, quand tu arrives dans un hôpital désaffecté avec tout muré, qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies. Tu te dis comment j'ai envie de pouvoir retrouver des amis aussi ici. Tu ouvres un lieu chauffé l'hiver où tu peux boire un coup sans être obligé de consommer forcément. Tu mets pas trop de sécu au début parce qu'il y a personne qui vient de toute façon, donc du coup c'est pas grave, il y a pas besoin de fouiller les sacs à l'entrée quand il y a 10 pelés et 3 tondus qui rentrent, quoi. Tu réfléchis dans ta programmation à accueillir les envies des autres, même si ça te plaît pas vraiment. Si t'es pas d'accord avec les pratiques artistiques d'un tel, c'est pas grave, peut-être qu'il a juste le droit de le faire. Et puis surtout t'ouvres au plus grand nombre en disant salut, on a de l'espace et du temps, contactez-nous si vous avez envie de réaliser des choses. Et ça, petit à petit, aggloméré avec la confiance que la personne, si elle a envie de faire quelque chose, c'est pas mal intentionné de base, elle vient le faire parce qu'elle a compris que dans cet endroit-là, il se passait quelque chose d'un peu différent. Peut-être que du coup, ça va déclencher des agglomérations de personnes qui n'ont pas trop l'habitude de se côtoyer et que ça va générer un peu plus de confiance dans les relations. Je pense que l'accueil, ça part déjà de soi, de base. Si t'es bien et que t'as envie d'être là, t'es capable d'accueillir. Quand t'es pas bien, tu peux pas. Donc...
Thomas, sur les conditions minimales de l'accueil, parce que bien souvent, on voit que notamment les occupations informelles, donc ces lieux tiers qu'on appelle des squats, ils offrent certes un toit, mais aussi des conditions d'accueil souvent précaires, en tout cas dégradées, pas toujours hospitalières. Alors quelles sont les conditions minimales et comment on fait pour décider d'y aller en se disant que c'est mieux que rien ? Où est la ligne qui permet de faire ces choix-là et de se dire que ce sera accueillant malgré tout ?
En fait, l'idée, c'est que si c'est mieux que ce qu'on aurait sans, on va avoir tendance à y aller. Par contre, on va toujours se battre politiquement pour quelque chose de mieux, puisqu'effectivement, que ce soit les squats, l'hébergement d'urgence, les hôtels, etc., c'est mieux que rien, mais c'est quand même du sous-logement. Donc, de toute façon, dans l'agence intercalaire, comme précédemment dans le collectif dont je parlais, on a toujours décidé de prendre ce qu'on pouvait prendre, mais par contre, de se battre politiquement. L'un va pas sans l'autre. Donc, et je pense que c'est inhérent aussi au temps court de l'urbanisme transitoire, c'est aussi de se projeter dans un temps long. Et on voit qu'en fait, tous les problèmes auxquels on est confronté, c'est parce que le temps long n'est pas géré. Le temps long sur du logement, c'est même pas 40 ans, ça devrait être 80 ans, sur la santé, sur les transports, dans tous les domaines, on est dans un temps très court et c'est comme ça aussi qu'on se fait piéger. Donc nous, l'idée, c'est de savoir répondre à des temps les plus courts possibles, y compris par exemple ouvrir 4 mois sur des dispositifs hivernaux et après voir si on peut pérenniser, mais toujours dans une vision long terme, une vision plus politique de comment on va faire pour mettre le transitoire au service du long terme.
Est-ce que Siam, tu veux poser une question ?
Oui, parce que dans l'hébergement d'urgence, quand on a commencé à faire du temporaire, au-delà juste des gymnases qu'on pouvait ouvrir, puisque c'est comme ça que ça... Voilà, les gymnases sur un temps, parce qu'il fait froid, donc c'est 2-3 mois, ça peut être 4 mois. Quand on a commencé à faire du temporaire, 6 mois, 1 an, 2 ans, la première chose qu'on nous a opposée, mais c'est difficile, vaut mieux du pérenne... pourquoi vous vous engagez là-dedans ? Et pour l'avoir fait sur des sites très importants avec plus de 200 personnes ou des petits sites et le travail qu'on mène avec Yasuikar et Plateau Urbain, je pense qu'il y a une intensité dans l'investissement, dans le temps court. C'est-à-dire qui permet à la fois une expérimentation, un lâcher-prise. Il y a des choses que nous faisons qu'on ne pourrait pas faire sur des sites pérennes. C'est clair. Il y a des normes auxquelles on ne pourrait pas... Voilà, on est contraint par énormément de normes aussi sur des sites pérennes. Et cette possibilité que nous avons au cœur des villes, mais ça peut être aussi en périphérie, ce temps-là est un temps que nous investissons de manière très intense. Et on le voit dans le travail social, mais on le voit aussi dans les activités que nous menons, avec un effort et un investissement qui est sans commune mesure avec un projet qui est d'abord étudié pendant 6 mois, ensuite on étudie la mise en œuvre, là on embauche en 2 semaines, on ouvre, on ne sait pas où on va, mais dans ce on ne sait pas où on va, on est de fait obligé de faire ensemble. On est obligé de faire avec les voisins, on est obligé de faire avec les citoyens du quartier, on s'appuie sur les commerçants, on s'appuie, voilà, on est obligé de faire avec. Et ce obligé de faire avec nous pousse quelque part à sortir aussi de notre zone de confort, de la routine du travail social, hein, parce qu'il y a aussi une routine, hein. On fait les choses comme ci, comme ça. Là, ben, on est aussi obligé de faire, dans le travail social, je le dis bien, avec les personnes que nous accueillons et qui sont juste là. Alors, on a beaucoup de bébés, hein, qui apprennent à les premiers sons et sans doute, voilà, ils vous écoutent, hein, j'en suis sûre. Et donc ça bouleverse aussi beaucoup de choses dans les normes que nous avons et qui, certes, sont confortables, mais qui ne correspondent plus à la réalité du public qui, lui, vit dans de l'éphémère, il va squatter là, il va squatter là, il se démerde pendant très longtemps parce que les situations administratives ne sont pas réglées au bout d'un an. Elles le sont généralement, si on croise les doigts, au bout de 5. Et c'est une période durant laquelle ils vont passer de lieu en lieu. Donc moi j'aime à dire, que, et je le dis aux salariés aussi, c'est que nous sommes aussi dans une forme de précarité avec eux. C'est-à-dire qu'on ferme un lieu, on repart ailleurs, on change, ouais, bah, ça va être dans 6 mois, je vais fermer ici, je vais fermer là et je vais devoir repartir ailleurs. Il faut que je repense à un projet, il faut que je repense une équipe, il faut que je me recrée des liens avec des collègues. C'est autant de changements qui changent aussi, nous, notre manière de bâtir aussi le commun avec la réalité des personnes que nous accueillons, avec les voisins qui sont tout autour, avec des partenaires qui ne sont pas simplement qui prennent des risques, parce qu'il faut quand même le dire... Plateau urbain, IS Wicamp, c'est pas... Bon, Aurore, c'est à 150 ans. On peut... voilà, on a des moyens, on va dire, qui nous permettent non pas de prendre des risques. Des fois, on prend pas des risques parce qu'on a les moyens. Nous, c'est pas ça. On prend des risques parce qu'on les a rencontrés. On prend des risques parce qu'on se dit, ah bah tiens, là, effectivement, on peut porter tel projet. Mais je tiens quand même à le dire, l'engagement des équipes de Plateau urbain, IS Wicamp, et sans doute, toi, tu peux en parler, c'est-à-dire que cet effort-là, je parle d'effort républicain ou citoyen, il est aussi, je ne sais pas si vous, certains d'entre vous voudront s'impliquer ensuite, mais c'est au contact de la prise de cette réalité-là qu'à un moment donné, on se dit bah, j'ai envie d'habiter là, comme le dit Aurore, j'ai envie de développer tel projet, bon, c'est sur 6 mois, j'ai pas de visibilité, mais j'y vais quand même et on va trouver des solutions, je vais taper à toutes les portes. Je pense qu'il y a cette tension dans laquelle qu'on crée est aussi un moyen de redynamiser le tissu associatif, tu peux en parler, qu'on bouscule, vraiment, parce que les normes dans lesquelles on est, et je peux vous dire que c'est pas parce qu'on est sur plan moral du bon côté, hein, c'est-à-dire du côté du bien, on peut se dire, ah bah tiens, moi je prends en charge des personnes, je travaille là, non, la réalité, elle est extrêmement violente pour les personnes, qu'on accompagne. La réalité sociale et politique de ce pays est très violente. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une femme enceinte, afghane, qui a été, on n'avait pas tous les éléments, qui a été renvoyée en Bulgarie et qui habitait dans un de mes centres. Donc je me suis réveillée ce matin avec ça en tête, en me disant, voilà de quoi on est capable aujourd'hui. Elle a pourtant un mari qui est réfugié statutaire. Elle faisait confiance, elle s'est rendue à la préfecture. Elle nous a pas donné tous les éléments. Après, nous, on se sent responsable. Là, aujourd'hui, elle est en Bulgarie, dans un pays qui accueille, comme vous le savez, très très mal les migrants. Et voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Donc la réalité, comme le dit Éric Pliès, qui est le directeur général de l'association, c'est qu'aujourd'hui, notre seule solution, c'est de créer du commun et de s'appuyer sur les citoyens pour faire face. Et sans ça, on n'y arrivera pas.
Mais je te rejoins tout à fait. Et c'est finalement face à l'inacceptable et l'inhumain qu'on retrouve en fait du sens. Et c'est assez marquant comment finalement dans notre monde, quand les gens sont établis avec plein d'argent, plein de sécurité, bah, ils sont dans des modèles qui quand même correspondent pas à ce qu'on imagine être l'humanité. Enfin, je vais prendre des cas extrêmes, hein, Dubaï, etc. C'est pas parce qu'ils roulent sur l'or qu'ils incarnent quelque chose qui a du sens et des valeurs. Et on arrive, nous, à trouver dans la grande précarité du temps très court, et moi je pense même des fois à des projets de squat qui ont duré 2 semaines, parce que là on parle de projets de 4 mois, mais dans le domaine des réquisitions et des squats, des fois c'est quelques heures, quelques jours, et là on retrouve finalement des valeurs, de la solidarité. Du coup, face à ça, les gens à un moment se serrent les coudes et ils disent bon stop quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement c'est dans ces temps courts qu'on retrouve ça. Et c'est à l'extrême, l'expérimentation, etc., qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et c'est là, effectivement, aussi tout l'enjeu aujourd'hui de ces tiers-lieux et des expérimentations d'urbanisme transitoire, c'est de redonner cette possibilité-là à des gens qui ont envie de franchir ce pas. Et nous, pendant longtemps, on a dû passer par l'illégalité, parce que concrètement, pour créer ce type de lieu, sans avoir de quelconque soutien, c'était franchir le pas de l'illégalité. Aujourd'hui, justement avec des cadres comme ceux qui sont proposés par les acteurs ici, on peut faire ça en plus en ayant quand même une enveloppe, un cadre légal qui nous permet d'expérimenter tout ça. Et ça, c'est quand même vraiment une chance. Et effectivement, j'espère que ça va amener de plus en plus de monde à s'impliquer dans ces lieux.
Moi, je voudrais vous poser la question justement, dans quelle mesure est-ce que ce temps court, cette intensité qu'on peut à la fois déplorer, mais dont Siem soulignait aussi les éventuels bienfaits. Comment est-ce que ça influence le temps long dont tu parlais et dont tu disais que vous l'avez toujours en tête? Comment est-ce que ça influence les politiques publiques? Aurore et Yes We Camp ont vu et ont été en partie la cause de la mise à l'agenda de l'urbanisme transitoire dans les projets des collectivités. Donc c'est en montrant l'exemple, sans que personne ne leur ait demandé, que finalement vous avez créé une sorte de nouvelle commande. Tu racontais aussi, Thomas, que vous êtes parvenu à force de réquisition, etc., à quasiment résorber le sans-abrisme à Toulouse en 10 ans, ou en tout cas à le faire baisser significativement, et donc que ça avait un impact sur les politiques publiques. Donc comment est-ce qu'on passe de ce temps court à ce temps long, et comment est-ce que vous parvenez à influer là-dessus? Est-ce que c'est juste par le faire, ou aussi par une sorte de lobbying?
Oui, c'est aussi par une sorte de lobbying. Après, on s'appuie surtout sur des personnes, hein, comme souvent. Nous, à Toulouse, en fait, quand la mairie est passée du PS aux Républicains, on a vu ça comme une catastrophe, alors qu'on commençait à peine à travailler un peu avec la mairie. Et finalement, on a réussi à faire mieux parce qu'on est tombé sur un adjoint de solidarité qui est avant tout un humaniste, qui a jamais été en quartier politiquement, qui souhaite pas l'être, et avec qui on a réussi à faire des choses. Donc, on a aussi cherché des alliés objectifs politiques. Parce que finalement, si on n'arrive pas à responsabiliser la sous-préfète qui est en charge des questions sociales et l'adjoint aux affaires sociales, si on se dit pas à un moment on est quand même dans le même bateau pour faire évoluer les cultures et faire avancer les choses, on n'y arrive pas. Et on est dans un domaine où le faire ensemble, non seulement des institutions entre elles, parce que on sait que c'est l'État qui doit loger, mais l'État n'a pas de bâtiment. C'est les collectivités locales, les bailleurs sociaux, etc., qui en ont. Donc, ils sont déjà dans un faire ensemble. Mais faire aussi ensemble avec les personnes directement concernées et avec tous ceux qui se sentent solidaires. Et c'est finalement ça, et c'est pour ça que je rejoins donc visiblement le directeur général d'Aurore. On a aujourd'hui besoin de faire tous ensemble. Voilà. Personnes directement concernées, professionnels des secteurs, citoyens, institutions, à un moment, il faut mettre ça au-dessus. C'est ça aussi, en fait, que nous, on a vu à Toulouse ces dernières années, c'est que, finalement, une mairie de droite qui a envie de travailler avec le gouvernement, ça peut mieux marcher qu'une mairie de gauche qui n'a pas du tout envie de travailler avec le gouvernement. Et donc, du coup, l'hébergement à Toulouse, l'hébergement d'urgence, a été multiplié par 4 en 4 ans. Donc, c'est... Enfin, on est sur des, on doit être la seule métropole à avoir effectivement moins de sans-abri qu'avant. Donc voilà, ça a dépassé à un moment les clivages aussi, des logiques politiciennes de part et d'autre. Et nous, c'est un peu le message qu'on porte aujourd'hui. On n'a pas envie d'avoir de lien avec des listes particulières au moment des municipales. Ce qu'on aimerait, c'est que les droits humains, les droits fondamentaux soient mis au-dessus de tout ça. Et qu'ils auront toujours des sujets pour s'affronter. Mais à un moment, quand il s'agit de quelqu'un qui dort dehors, c'est pas possible de l'instrumentaliser politiquement d'une manière ou d'une autre.
C'est difficile de rajouter des choses très différentes, mais nous, on est plus, on a toujours été beaucoup plus dans le faire et l'agir en termes d'action pratico-pratique et très concrète. Donc, en termes de lien avec les institutions, on a plutôt été à ouvrir les portes quand il y avait une fenêtre de discussion possible. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les aménageurs, notamment, qu'on a accueillis. On a fait des petites réunions, on a proposé un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et puis du coup, ça a permis de tisser des liens, mais c'était parce qu'il y avait un sujet, une situation concrète, palpable, tangible, et il fallait lever les craintes et les freins techniques, économiques. Et les premières réunions, c'était pas du tout gagné d'avance, quoi. Mais petit à petit, puis au final, tu te retrouves à boire un verre, faire un bagna ou je sais pas quoi, puis tu fais tomber un peu des barrières ou des murs qui existent de base. Et donc là aujourd'hui le projet, moi je suis, enfin, un des grands motifs de fierté, c'est le fait qu'on ait pu installer dans le, enfin, contribuer à faire que un centre d'hébergement d'urgence en fixe s'installe dans le projet pérenne, alors que c'était pas prévu auparavant, qu'il y ait des bureaux à loyer modéré pour des structures associatives qui ont envie d'être sur Paris, qui est un peu l'endroit où tout se passe pour monter leur structure, qui est des manières de penser, la façon dont on va gérer les communs assez différentes. Enfin, c'est assez petit en fait au regard des énormes budgets que les aménageurs gèrent, mais dans ce que ça raconte sur l'effort que eux ont fait pour venir vers nous et que nous on a pu transmettre, c'est assez chouette.
Cause commune.
Moi j'avais
des conférences comme si vous y étiez.
Une autre question pour vous. Souvent les lieux tiers, ces lieux hybrides. On sent pointer le risque d'une homogénéité en leur sein. Cette homogénéité, elle peut être par une homogénéité de gens en situation de précarité ou une homogénéité de gens qui vivent bien et qui, les fameux gentrifieurs. Et donc, comment on se donne les outils pour ouvrir ces lieux à différents types de gens, de citoyens? Comment est-ce qu'on fait pour pour aller au-delà de l'urgence et se dire voilà, cette ouverture au quartier ou cette mixité des publics que vous défendez, comment ça se réfléchit? Est-ce que c'est dès le début? Est-ce que c'est dans un second temps? Comment on fait pour accueillir tout le monde?
C'est très difficile de répondre de manière hors site, mais en tout cas, ce que les grands voisins, nous, ça nous a permis de réaliser, c'est qu'il y avait un enjeu à ce que on travaille sur les endroits où sont déjà les publics les plus vulnérables, que leur présence et leur place, elle est structurante dans la construction de ces modèles-là, parce qu'on voit bien à quel point c'est difficile pour des institutions comme on peut parler de n'importe quel musée ou n'importe quelle institution qui chercherait avec un département des publics à faire du lien. En fait, à Marseille, par exemple, le MUCEM, ils ont des départements des publics qui dépensent un fric monstre pour faire venir les mecs des quartiers nord. En fait, va juste là-bas, quoi. Tu vois, il y a un truc sur comment tu fais pour que les gens qui sont, les choix de tes projets mixtes qui cherchent à fabriquer du lien, tu ailles sur les endroits ou dans les lieux qui sont déjà habités et vécus par les personnes qui ont moins de choix de déplacement, moins de. Donc ça, je pense que c'est une des grandes leçons. Ensuite, dans tout le processus de gentrification, qui est un peu un truc organique, presque malheureusement naturel, parce qu'on va toujours vers ce qui nous ressemble, c'est plus facile. Faut se battre au quotidien pour mettre des petits efforts pour que chacun y trouve son compte. Donc ça passe par des choses chez nous qui sont peut-être anecdotiques, mais tu vas trouver de la gratuité, trouver à dire bonjour, à faire attention à ce que la personne elle se sente bien à l'endroit où elle est, chercher des programmations ou des activités qui peuvent plaire à des personnes différentes, y compris aussi les publics qui sont les grands méchants gentrificateurs. Du coup, c'est une lutte de tous les jours. J'ai le souvenir de Julien Beller qui disait ça en parlant du 6B. En fait, du moment où tu commences à mettre quelqu'un qui va filtrer à l'entrée, qui rentre ou qui rentre pas, en ayant comme consigne de filtrer ceux qui sont pas très... tu les fais pas rentrer, là, c'est fini, quoi. Alors que si tu essayes de dire, ouvre les sacs pour vérifier qu'il n'y ait pas d'objets dangereux, mais laisse rentrer, peu importe comment t'es sapé, peu importe si tu as l'air d'avoir l'argent pour consommer... Là, c'est différent. Donc, ça passe par tout un tas de micro-actions en fait, qui font que tu te sentes bien à un endroit ou pas. Ça passe aussi vachement par la propreté des lieux, parce qu'il y a différents... Je pense à l'accueil de personnes plus âgées, par exemple, où du coup, dès que c'est sale, ça va être très compliqué de pouvoir accueillir, en les mettant à l'aise, des personnes qui vont avoir peut-être plus d'exigences sur le soin de tout ça. Donc après, on y arrive plus ou moins. C'est toujours des questions difficiles. Mais... voilà. Enfin, moi, je pense que ça passe dans tous les actes du quotidien, de la maintenance, de l'entretien, des choix de programmation, des choix des personnes qu'on met à tel ou tel endroit. J'ai l'impression que c'est là-dedans. Et du coup, c'est chacun, individuellement, dans son métier, dans son rôle, comment tu contribues à faire que, ben oui, tu mets l'effort, le petit effort que toi, t'es capable de faire pour que ça marche, quoi. Et peut-être ça va être pour certains juste dire bonjour à quelqu'un qui a l'air un peu, qui pue un peu. Et pour d'autres, ça va être un peu plus, mais il faut compter sur chacun, quoi.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut partir à chaque fois aussi des originalités. C'est-à-dire que quand on ouvre un lieu, il y a toujours un truc inhabituel, une bizarrerie. Des fois, on ne la trouve même pas tout de suite. Hein. Des fois, c'est au bout de X jours, tiens, on ouvre une porte. Ah ouais. Et je crois que les gens aussi ont ces originalités-là. Donc, quand on mélange les originalités des lieux et des gens, on arrive à faire quelque chose qui est original. Et je pense aussi qu'en fait, de toute façon, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est créer du tissu du lien social, du tissu économique, quelque chose de politique qui dépasse les lieux. Et que du coup, à partir du moment où on fait ça, ça veut dire aussi qu'on est sur des processus qui partent des gens et qu'on va arriver à des modèles différents. Parce que si on reprend le cas de Gilets jaunes qui veulent légaliser un lieu, bon, bah alors, ça, désolé les gars, mais c'est quoi le modèle économique, quoi ? Admettons, on arrive à négocier, il n'y a pas besoin de payer de loyer, mais il va quand même falloir se mettre d'accord sur un modèle. Il y en a qui l'ont fait il y a bien longtemps, il y a 70 ans, Emmaüs lançait des communautés. Il y a un modèle économique, on fait du bric-à-brac, avec ça on paye, on satisfait les besoins collectifs. C'est un modèle avec du bric-à-brac. Nous aujourd'hui on finance des logements pour des personnes sans papier en livrant des repas et en faisant de l'événementiel. Du coup, quand on se dit, bah, de toute façon sur le lieu on va avoir besoin, si on veut être dans quelque chose d'inconditionnel, on va vite avoir besoin d'un modèle économique. Ça veut aussi dire que pour ce modèle-là, il va falloir partir de ce que veulent faire les gens. Et ça va être des compétences artistiques, ça va être tout un tas de choses. Souvent, enfin, nous, on trouve que ce qui est bien avec le service traiteur solidaire, c'est que c'est une compétence largement partagée qui met largement en avant aussi la diversité. Et parce que quand on voit un joli buffet, ben on a tout de suite envie de le manger. Et ça dit tout de suite, quoi. Mais voilà, il y a plein du coup d'activités en fait à imaginer et à convenir collectivement. Et du coup, je pense que ça fait autant de projets aussi différents.
Dans les choses aussi que nous, peut-être, on va avoir comme ingrédients qui vont contribuer à faire que ça décale pour faire tomber toutes ces barrières invisibles. Il y a aussi la place des artistes et la place de la pratique artistique, en tout cas, peu importe si c'est par un artiste ou pas. Mais du coup, de mettre à un endroit quelqu'un qui fait quelque chose dont on n'aurait pas l'habitude de faire. Enfin, du coup, dans un hôpital désaffecté, quelqu'un qui va se mettre à faire un énorme barbecue sur roulette en plus. Enfin, de mettre du décalage, de la poésie, de l'art ou des choses qui ne sont pas habituelles, ça provoque aussi des manières de s'accrocher à quelque chose. Alors lui, il est encore plus bizarre que moi, en fait, quoi. Donc y a, je pense aussi ça, dans la manière de laisser de la place à chacun, il y a laisser de la place à l'inattendu, un peu inexplicable, ou de l'envie de... Tout à l'heure, par exemple, quand on est arrivé, il y a une dame qui s'est mise à chanter, c'était très très beau. Du coup, ça m'a mis vachement plus à l'aise qu'au démarrage. Donc ça compte.
Ouais, moi je voulais réagir à ce que tu disais, Thomas, parce que je trouve que ça interpelle vachement. Tu dis, on finance des logements pour des sans-papiers en faisant de l'événementiel et en livrant des repas. Siam, elle le rappelait tout à l'heure, c'est quelque chose qui relève de la compétence de l'État. Alors on sait évidemment que c'est pas facile du tout d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence et que c'est pas parce que c'est la compétence de l'État que l'État finance le bon nombre de places et le bon nombre de logements. Mais je voulais te demander qu'est-ce que ça change en fait de financer des logements par tes propres moyens, par ton propre modèle économique et par de la péréquation avec d'autres activités par rapport à avoir des places d'hébergement financées par l'État. Parce qu'en fait vous faites la même chose, même si ça, enfin, c'est hyper différent, mais finalement Siem et Thomas, vous faites des choses qui sont très semblables. Et qu'est-ce qui change quand l'argent vient pas de l'État mais vient de votre modèle associatif?
Justement, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, ça change le fait déjà d'avoir de l'inconditionnalité, c'est-à-dire que le plan A, c'est quand même de faire reconnaître les obligations et les droits fondamentaux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est toujours dans l'articulation entre le concret qu'on peut obtenir aujourd'hui pour pas que quelqu'un reste dehors, par rapport à des idéaux qu'on défend toujours, et on attend toujours le grand soir, mais on travaille les petits matins. Donc le grand soir, bon, ben, on n'aurait plus besoin de faire ça, et puis chacun pourrait choisir ce qu'il veut, enfin, comme type de logement. Mais en attendant, on se bat encore pour ça, hein. On se bat avec la Fédération des acteurs de solidarité et tout un tas d'acteurs de ce type-là sur un plan politique, la LDH, etc. On est toujours dans une forme de lutte politique. Justement, il ne faut pas que l'un se fasse au détriment de l'autre, et au contraire, l'un peut alimenter l'autre. C'est-à-dire que c'est quand même aussi, de par ce qu'on expérimente au quotidien, qu'on est un peu plus juste dans ce qu'on va raconter politiquement, et ça va aussi nous éviter d'oublier les gens. Parce que par contre, quand on fait que le volet politique, en fait, on se met vite à parler de gens qu'on ne connaît pas, en fait. Alors que les exemples concrets, ce qu'on a entendu le matin, la veille, ça alimente énormément. Et c'est ce qui percute, en fait. Parce que dès qu'on est un peu trop dans le théorique au niveau politique, franchement, on brasse du vent, ou alors on ne parle plus qu'à des gens qui, eux-mêmes, brassent du vent. Et quand on écoute les personnes directement concernées, les personnes accueillies, il y a tellement de choses qui sont dites en peu de mots. Voilà, il y a des fois, il y a des choses, c'est tellement viscéral, c'est tellement bien dit, juste parce que c'est la bonne personne qui le dit, que reprendre ce qui est dit par autant des personnes accueillies que les professionnels eux-mêmes, c'est pareil. Aujourd'hui, être travailleur social en France, mais enfin, c'est à la fois un métier magnifique et c'est l'horreur. Enfin, il faut trouver du sens là-dedans. Donc c'est pareil, pour moi, je pense, et j'en connais beaucoup, du coup, aussi des militants, hein, mais qu'être travailleur social aujourd'hui, il y a forcément un volet, bah, ok, j'accepte de faire ce que je fais au quotidien, parce que par ailleurs, je continue à me mobiliser pour que les choses changent, et que les deux vont de pair, sinon on craque, enfin, sinon on ne tient pas dans la longueur. Moi, les travailleurs sociaux que je vois faire un super boulot pendant des années, c'est parce qu'en général, ils ont une conscience qui fait que, politiquement, ils continuent à se mobiliser avec des citoyens, des personnes directement concernées et tout. Donc vraiment, pour moi, les deux sont complémentaires, et voilà, après, c'est le quotidien, et encore une fois, notamment Emmaüs, c'est ce qu'Emmaüs a prouvé depuis 70 ans, tout ce qu'a fait Emmaüs, ça repose aussi sur un modèle de ce type-là qui vient compenser les manquements des pouvoirs publics, quoi.
Ben on va aller de toute façon vers une évolution du financement des places. Ce qu'il faut éviter, c'est une privatisation totale, c'est-à-dire qu'un désengagement, pourquoi j'insiste, et j'ai dit c'est une compétence de l'État, c'est que c'est la solidarité nationale, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui, à un moment donné, parce qu'on appartient à cet État, en tout cas à la République, voilà, qui dit bah, je concède une partie de mes revenus, hein, parce que c'est nos revenus qui financent, on finance ça, pour ça, parce que j'y tiens. Demain, ça peut être totalement autre chose. Et donc, c'est à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire privatiser totalement, et donc reposer totalement sur du financement privé, c'est-à-dire le bénévolat ou les dons. D'accord ? Moi, je pense qu'on va aller vers quelque chose qu'il faut tenir le pilier de la solidarité nationale, parce que c'est un engagement politique aussi. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que des personnes vivent à la rue ou n'aient pas les mêmes conditions d'accès. Et la même condition d'égalité de traitement, etc. Mais, et qu'il y ait des financements alternatifs. Je pense à la bière sans pape, notamment, qui est brassée par des migrants en Belgique et qui là, a été vendue aux grands voisins pour financer des nuits hôtelières. Donc ça, c'est... Voilà, c'est un exemple précis de financement alternatif et qui nous permettent de financer à un moment donné. Il faut aussi se battre pour que ces situations soient temporaires. L'hébergement d'urgence, c'est aussi ça, c'est du temporaire. Le temporaire, c'est bien. Je suis temporairement à la rue, je suis temporairement migrant, je suis temporairement en demande d'asile, et puis c'est temporaire, ça veut dire qu'il y a une alternative après. Il ne faut pas installer le charity, c'est-à-dire bah, c'est bien, voilà, je donne tous les mois. Non, on doit sortir de ça. Et je pense qu'en pensant comme ça, c'est repenser ce qu'on essaye de faire. Alors, on a dit qu'on n'était pas dans une logique partisane, évidemment. Bon, moi, je suis fondamentalement de gauche, mais j'ai appris que j'étais fondamentalement de gauche aux côtés de mes camarades de gauche qui parlaient au nom du peuple à la place du peuple. Donc, je peux vraiment me bagarrer avec eux là-dessus. Et bizarrement, eh ben, on peut avoir un élu local qui va être humaniste, tout simplement, qui va se battre pour que telle famille soit relogée. Ben, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on soit un peu à la fois dans cette dynamique de repenser sur un plan politique qu'est-ce que nous foutons là, pourquoi on a vu telle situation, en dehors des l'idéologie sans idéologie, et en même temps remettre une dynamique politique et penser véritablement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire concrètement, comment tu gères les flux migratoires ? Comment tu vas est-ce que tu vas construire plus d'hébergements ? Est-ce que tu veux que ça soit pérennisé ? Ou est-ce que tu veux que ça reste du temps temporaire et que les gens puissent accéder à du logement ? Voilà. Alors ça paraît comme ça des grands dire « Ah ben non, mais tout ça, on va pas y arriver. » Si, si, on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver, parce qu'en Europe, si on regarde à l'échelle européenne les millions de mètres carrés qui sont vides, premièrement. Deuxièmement, la capacité que nous avons à mobiliser des moyens quand on veut les mobiliser. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas du tout baisser les bras, mais que là où je te rejoins, c'est que déjà, si on arrive à se mettre d'accord à un niveau local sur comment on peut transformer nos villes et nos territoires en remettant de la solidarité, ça serait déjà formidable.
Cause commune.
Est-ce qu'il y a des
conférences
questions ou des réactions
si vous
parmi
étiez.
Vous ouais. C'est plus une question qui s'adresse à Aurore. Moi, j'aimerais savoir, après ces années d'expérimentation aux grands voisins, si selon vous, il y a eu réellement une création de liens entre les différents publics, qui sont des publics principalement éloignés. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces années, vous ressentez... Enfin, est-ce que pour vous, il y a eu vraiment création de liens sociaux, quoi ?
Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient réagir ?
Ouais, c'est assez en lien avec cette question-là, mais je vais la poser un peu différemment. Selon toi, Aurore, qu'est-ce qui, pour avoir travaillé et vivre, vivre aussi aux grands voisins, dans un projet de cette ampleur, avec cette mixité d'activités, d'usages, qu'est-ce qui fait la particularité que dans ce lieu, en plus, voilà, il y a des personnes hébergées en précarité par rapport à d'autres lieux, justement, dits aussi tiers, dits alternatifs. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'avoir de l'hébergement dans le message aussi que les grands voisins portent ?
Alors du coup, moi, c'est comme tous les grands mots, j'aime pas trop. Lien social, ça veut dire quoi ? Est-ce que je vais aller boire des verres avec Momo et Fatih après, quand on aura fermé ? Bien sûr que oui. Ensuite, est-ce que chacun des 250 personnes qui ont été hébergées sur ce site est plus, en fait ? Est-ce que chacun a retrouvé une place dans une communauté d'amis et tout ça ? Je suis pas sûre. Parce que c'est pas en 5 ans que tu arrives à soigner des choses aussi lourdes que celles que certaines de ces personnes portent. Donc, moi, je pense que ça a contribué à faire du lien, comme quand tu pars pendant, je sais pas... un an en Erasmus avec des gens que tu vas aimer pendant un temps et puis partager encore, essayer de voir d'autres moments et puis tu changes de trajectoire comme tes amis d'école, comme tu vois. Je pense que ça redonne de la confiance d'avoir ces relations-là à un moment dans ta vie. Donc moi je pense que ça contribue à fabriquer des endroits où en tout cas ce lien peut exister. Ça se résout pas en 5 ans à un seul endroit, c'est des multiples trajectoires individuelles qui se croisent et du coup il y a des... C'est pas un énorme puzzle qu'on va résoudre en 2 heures, quoi. Ça contribue en tout cas à faire exister des espaces où ce lien il peut exister, parce qu'en fait aujourd'hui, quand tu regardes la manière dont la ville elle se construit, ce qu'ils sont en train de mettre en place dans les gares, quand maintenant tu peux même plus aller dire au revoir à ton gamin que tu mets dans le train, quoi, parce que t'as un bip. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que moi, à mon échelle, de ma petite structure associative qui est une goutte d'eau dans la société française, qu'est-ce que moi je peux contribuer à faire ? Donc t'essayes. Et puis après, à chacun individuellement, tous autant qu'on est dans la salle, de voir comment on peut contribuer dans son métier, ses envies, tout ça, fabriquer ça. Comment la personne qui est en bas de chez toi, qui fait la manche, bah peut-être un jour tu vas lui amener du pain, après tu vas discuter avec elle, après tu vas... Voilà, donc les liens sociaux, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins des endroits qui rendent ça possible, quoi.
Peut-être que tu peux expliquer un peu plus. Parce que nous, on est totalement légitimes pour parler de ce sujet, puisqu'on avait au départ, je pense qu'on peut le dire, pas du tout pensé ce qui allait se passer aux grands voisins. Il faut quand même imaginer que c'est comme le temporaire, c'est... c'est comme ici, vendredi, tu ouvres la Rochefoucauld. Lundi, je suis déjà là, j'ai déjà une équipe et on est en train de faire le même. Voilà, il s'est passé 2 jours. Et je pense que là, dans cette projection-là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a pas eu genre cahier des charges. Il y a eu évidemment un cadre, mais franchement, ce qui a été fait n'était pas écrit au départ, et tant mieux.
Non, puis dans les conseils qu'on nous a donnés quand on est arrivé, vous allez mettre des conteneurs et des barrières entre les espaces des centres d'hébergement et les espaces d'accueil de public, quoi. Enfin, en gros, c'est ça le monde dans lequel on vit, en fait. C'est un. Et heureusement que vous n'avez pas fait ça et que. Non, mais. C'est la réalité. Et après, peut-être que Marine peut... Parce qu'on a... en fait, c'est la deuxième année où on organise ce séminaire. C'est essayer de penser ce qui a été fait, ce que nous sommes aussi en train de faire et ce qu'on va faire. C'est-à-dire, cette, justement, autour de la capacité du lien. La capacité du lien, on peut tous la perdre. Voilà. Et il y a, évidemment, la psychothérapie institutionnelle. Donc, c'est les années 50. Donc, je vous encourage à lire... Toscaïès, qui justement, dans l'histoire de l'éloignement dans psychiatrie de tout le médicament et de la psychiatrie dure, etc., ont imaginé à la Borde, à la clinique de la Borde, un moyen de travailler où, par exemple, on va aller embaucher non pas des infirmiers, mais des gens du village. Donc des gens qui ne sont pas du tout dans le soin. Et je veux juste finir, c'est dire que cette question du lien social, moi je l'ai abordée tout à l'heure en parlant de tiers aidants, c'est autant de capacité de transfert. C'est-à-dire que les personnes, notamment, on va dire, les plus éloignées de la capacité du lien, c'est-à-dire les psychotiques et toutes les personnes qui ont des pathologies psychiques, finalement, dans cette, à la fois le lieu est important, donc l'architecture et les espaces, c'est-à-dire autant d'espaces différents, avec des fonctionnalités différentes qui permettent une capacité de transfert en dehors du lieu de vie dans lequel ils sont hébergés. Et deuxièmement, autant de capacité de transfert avec des personnes avec lesquelles il n'est pas, c'est pas l'infirmier, c'est pas le travailleur social, c'est pas le directeur du site, c'est d'autres personnes qui vont justement permettre à la personne de pouvoir petit à petit se repositionner repenser ce lien-là. Et le lien social, c'est exactement ça. C'est-à-dire, et évidemment, comme pour l'exemple des grands voisins ou l'exemple ici où on ouvre le lieu, c'est que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le lieu, qui rentrent, qui viennent boire un coup. Mais parfois, c'est un échange, c'est un regard, c'est voilà, tout simple. Ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. Mais c'est autant de possibilités de recréer du lien et de le penser. Je ne sais pas si Marine peut-être un tout petit peu plus développer, parce qu'on a travaillé sur un texte, justement.
Pour compléter dans la continuité, j'ai entendu un certain nombre de termes que je trouve un peu intéressant de mettre dans un continuum. On a parlé de bizarrerie, on a parlé de décalage, on a parlé d'originalité, on a parlé de souffrance psychique. Je pense qu'il y a un autre terme qui peut être un centre de gravité pour nous, pour penser ce qui peut se passer dans ce genre de lieu, c'est la notion de vulnérabilité partagée. Parce qu'en fait, il y a énormément de lieux dans la société dans laquelle nous vivons, qui sont des lieux qui exclut plus ou moins explicitement et qui exclut aussi parce que ce sont des lieux où on nous demande d'être puissant, d'être tout puissant, d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir de la capacité, d'être meilleur que les autres, d'être dans l'hyper-rivalité. Je pense que chacun peut très bien imaginer ce à quoi je fais référence. Et donc produire les coordonnées d'espace aujourd'hui dans la ville qui permettent d'exprimer des vulnérabilités, c'est pas rien. Et donc j'entendais qu'Aurore, tu disais bon voilà, on fait des petites choses à notre échelle, etc. Oui, sauf que ces petites choses cumulées que vous avez faites pendant toutes ces années, en fait ce que vous avez fait, c'est que vous avez recréé de la continuité là où il y avait de la discontinuité. Vous avez permis, dans un espace où des processus advenaient en parallèle, que des gens renouent avec le fait de recroiser quelqu'un, puis le recroiser et le re-recroiser. Tu vois, ça, c'est un des trucs les plus importants. C'est que moi, j'ai commencé à travailler, je suis psy pour l'association Aurore, et j'ai commencé à travailler avec la maraude du 13e arrondissement. Eh bien, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça, dans une façon itérative, l'occasion de parler à quelqu'un, de prendre un café avec, de faire la fête, de partager un morceau ensemble, en fait, finalement, c'est ça qui crée les conditions de la confiance. Et je pense qu'il ne faut pas du tout euphémiser ou minimiser la fonction soignante que vous avez eue pendant toutes ces années pour les personnes
qui étaient dans l'enceinte de ce lieu, alors soignantes à l'endroit des personnes hébergées, bien sûr, mais soignantes aussi à l'endroit des gens qui, bah, comme les gens qui sont là ce soir, ont décidé de se porter vers ce genre d'activité. Enfin, je parle souvent de la trajectoire d'Emma, qui a dirigé le projet Food à Grand Voisin, parce que Emma, c'est typiquement quelqu'un qui nous ressemble dans la trajectoire sociologique, quelqu'un qui a fait des études supérieures à Sciences Po, quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit « Tiens, je vais faire une reconversion professionnelle dans la cuisine », qui a fréquenté le monde de la gastronomie avec son côté hyper hiérarchisé, pyramidal, sexiste, qui s'est dit « J'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose », et qui a lancé ce projet Food dont on connaît un petit peu les aboutissements. Hier, je suis passée à Grand Voisin, j'étais avec Rada, que vous connaissez, qui a ouvert son resto à Grand Voisin. Bon, ben Rada, aujourd'hui, c'est quelqu'un, moi, que je connais, que je fréquente, que je considère être une amie, et on se fait confiance. Donc hier, je suis allée voir Rada, et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu pourrais prendre en stage chez toi quelqu'un que j'accompagne, qui est un monsieur irakien, qui a une problématique transgenre, qui faisait de la cuisine pour une chanteuse syrienne en Syrie, qui a dû fuir de la Syrie aussi. Et ce monsieur-là, il est extraordinaire, mais parce qu'il est plein d'affect, plein de vulnérabilité, et toujours au bord de l'effondrement, je ne savais pas à qui m'adresser et qui pourrait contenir ça. » Bon, ben voilà, la réponse, c'était Gada. Donc, tout ça pour... je vous raconte cette micro-histoire pour boucler sur le fait que, en fait, cette référence à la communauté thérapeutique et la psychothérapie institutionnelle, en fait, c'est fondamental, parce que quand on réfléchit à un projet qui est où on ne perd pas de vue le point de vue politique, quel que soit le bord politique, c'est ça, c'est comment on crée des communautés dans lesquelles la question de la vulnérabilité de chacun, que ce soit des accidents de parcours pour les actifs ou les surdiplômés très sympathiques qui ont envie de donner du temps, ou pour les gens qui ont vécu des traumas plus graves, bah comment ça se noue ensemble et ça peut créer des choses intéressantes. Voilà. Et je voulais juste dire quelque chose par rapport à la question de la temporalité et de la scansion. On a parlé du temps court et du temps long. En fait, ce temps que vous avez passé avec eux à Grand Voisin, c'est un temps qui se sera inscrit psychiquement de manière hyper forte. Et ça veut dire que même si Grand Voisin ça disparaît, même si ces lieux-là disparaissent, cette capacité à faire confiance à l'autre, elle sera transférable dans l'avenir à d'autres modèles de relations. Un peu comme quand tu vas voir un psy et que tu fais, je sais pas, 2-3 ans d'analyse, tu expérimentes des choses de manière sécure avec ton psy, et un jour, le psy, il faut le souhaiter, on n'a plus besoin de lui, et on va vivre des choses dans la réalité qui seront plus intéressantes, plus risquées, mais parce qu'on a cette sécurité intérieure. Donc pour moi, ce que vous faites dans les tiers-lieux, c'est vous le faites à l'échelle d'une communauté. Pour moi, c'est thérapeutique. Voilà.
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Donc la ville accueillante, c'est peut-être mettre en commun nos vulnérabilités à nous tous et nous toutes, sans, on va dire, a priori. Bon, certes, les personnes n'ont pas forcément d'hébergement, mais il y a d'autres formes de précarité, de vulnérabilité, et nous le savons très bien. Et dans ce que vous avez réussi à mettre en commun, notamment dans le projet de Food, c'est les vulnérabilités de tous au niveau professionnel, dans ce rapport à la restauration, qui était extrêmement violent. Certains étaient des apprentis, d'autres avaient travaillé dans la grande gastronomie, avaient vécu des harcèlements, et finalement, bah, ils ont mis en commun, ils ont partagé cette difficulté, cette vulnérabilité-là, et chacun a pu en avancer avec ça. Et je pense, voilà, la ville accueillante, finalement, est-ce que c'est pas cela, c'est mettre en commun nos vulnérabilités pour créer, pour inventer.
Je sais pas s'il y a d'autres questions dans le public.
Merci. Moi, j'avais une question sur l'accueil, mais qui portait pas forcément sur ces sujets-là. Mais Yes We Camp, vous parliez tout à l'heure de codes un peu, ou de cadres qui sont plus de l'ordre du pratique et du matériel, qu'on vous prescrive dans l'aménagement d'un espace de faire telle ou telle chose. Et moi, c'était plus sur ça que portait ma question, sur le matériel de l'accueil, quelle forme il peut prendre, et notamment dans ces lieux, vous avez parlé d'homogénéisation, où c'est aussi des questions qui se posent d'un point de vue matériel. Je me demandais, pour quelqu'un qui est architecte, mais aussi pour, même quand on n'est pas dans le matériel ou dans le spatial, qu'est-ce que ça veut dire accueillir d'un point de vue de la forme, et comment on accueille dans un lieu, quelle forme ça prend l'accueil d'un point de vue matériel. C'est plus ça ma question, et comment vous le traduisez, comment vous arrivez à le gérer sur le temps court notamment.
C'est déjà en déconstruisant cette barrière qui existe entre la forme et les personnes qui l'accueillent, je pense. Dans l'équipe, nous, il y a des gens qui sont architectes, mais il y a aussi des gens qui font de la programmation culturelle ou qui font de la gestion, de l'admin, ou enfin, il y a plein de métiers différents de la cuisine. Et déjà, en partageant l'acte de construire ou de fabriquer avec des personnes qui n'en font pas partie, en soi, dans la manière dont le monde se construit aujourd'hui, je pense que ça contribue à déjà fabriquer des choses plus adaptées. Donc, les plans de la cuisine, ben, du coup, il y a un des archis de l'équipe qui les a bossés avec les cuistots en disant « Ok, tu passes par où ?» Donc, il y a, des, je pense, des relations déjà très courtes entre l'utilisateur et le concepteur-constructeur. Parfois, c'est la même personne. Le bar qu'on a géré, du coup, et dans lequel on a servi pendant 5 ans, on l'a conçu, construit, et on a servi dedans, quoi. Donc, l'erreur de conception ou les problèmes de construction, tu les répares très vite quand t'es capable de le faire. Donc, l'atelier, c'est un des gros nœuds du projet Les Grands Voisins qui a contribué largement à faire que chacun pouvait s'emparer des transformations spatiales. Tous les outils, ils sont à dispo, enfin, les outils pas dangereux, ils sont à dispo des gens qui viennent les emprunter et qui les rendent après. Donc, ça peut aussi être ça, donner les clés de la transformation spatiale aux différentes personnes. En tout cas, moi, ça, c'est ce que je vois.
Thomas, est-ce que tu veux réagir à ça? Comment est-ce que, dans éventuellement des économies qui ne sont pas les mêmes, avec des temporalités qui ne sont pas non plus les mêmes, parce qu'au départ, quand on réquisitionne un lieu, ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer, contrairement aux grands voisins, où on savait que ça allait au moins durer 2 ans. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer physiquement, dans l'aménagement d'un lieu, en restant dans cette incertitude?
Alors déjà, moi, le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a une grosse part de hasard, parce que quand on n'a pas du tout d'argent, c'est aussi au hasard de ce qu'on trouve et de ce qu'on a sous la main. Donc j'ai l'impression que le gros facteur déterminant au début, c'est quand on a un budget, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, on peut partir dans plein de pistes. Mais en fait, on est souvent hyper contraint. Donc en fait, c'est les gens qui sont là, leurs idées et ce qui traîne. Enfin, moi, j'ai surtout l'impression qu'à chaque fois, c'est comme ça. Ce qui fait que du coup, c'est toujours un peu de la débrouille, et puis en plus ça évolue au fil du temps. Ce qui est génial aussi sur ces lieux, c'est que quand les gens évoluent eux-mêmes ou que c'est plus les mêmes personnes, du coup le lieu change, et c'est assez surprenant, même quand on a vu toute la vie d'un lieu, de revoir les images du début, et même si c'était il y a 3 mois, même si c'était il y a 2 ans, toutes les transformations qu'il y a eu, c'est étonnant, quoi. Et comment en fait on s'en souvient relativement peu, quoi. Et ça, c'est quand même assez génial, ces évolutions très rapides par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude.
Alors, en petit point lexical, cette débrouille, désormais, si vous voulez vous institutionnaliser, il faut l'appeler réemploi.
C'est notre côté rebelle.
Est-ce que il y a d'autres gens qui désirent prendre la parole? Sinon, une question, on essaye dans ce séminaire d'avoir une approche critique des tiers-lieux, donc ça veut dire aussi en voir les limites. Est-ce que vous avez des exemples en tête de lieux qui, selon vous, ou de projets que vous avez menés, qui, selon vous, ont failli à leur mission d'accueil ou auraient pu être plus accueillants si telle ou telle condition avait été levée? Est-ce qu'il y a des échecs parfois dans ces expériences? Parce qu'on parle beaucoup évidemment des réussites, mais je pense que c'est aussi important d'avoir en tête les échecs et les facteurs d'échecs, plus pour les comprendre que pour les déplorer d'ailleurs.
Alors des échecs complets, à part des expulsions très rapides, mais bon, enfin, en tout cas on aurait toujours pu mieux faire, quoi. Ça c'est clair, c'est plutôt ce sentiment là, c'est que même on a toujours pu mieux faire. Bon, par contre, en général, ce qui a été fait, on était déjà content que ça au moins déjà ça ait eu lieu. Et après la question, ouais, c'est des échecs, c'est soit collectif, soit individuel. Enfin, c'est des fois on n'a pas trouvé le bon truc, ou une personne où on se dit voilà, on n'a peut-être pas assez accueilli, on n'a pas trouvé le truc qui allait l'inclure. Parce qu'il y a des fois, à l'inverse, on sent qu'il y a un petit truc qui change tout. Des fois, c'est juste un mot même qui fait que la personne, d'un coup, hop, elle s'accroche au truc. Et donc, il y a d'autres fois où ça ne marche pas et où forcément, on n'a pas trouvé ce mot-là, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'on aurait pu toujours mieux faire. Et moi, j'essaie de m'inspirer de tous les gens qu'on voit au quotidien en disant, mais qu'est-ce qu'eux, ils auraient dit de ce qu'on fait? Et du coup, d'essayer de pouvoir assumer tout ce qu'on fait.
auprès des uns et des autres. Voilà. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à garder des bons rapports avec les uns et les autres, c'est que du coup, il faut quand même se dire, qu'est-ce qu'ils auraient pensé, les squatteurs de là-bas, sur quoi ils nous attaqueraient et tout. Et du coup, d'essayer de se remémorer l'esprit critique de chacun pour du coup mieux voir les échecs, parce qu'en fait, chacun voit des différents, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi partager sa vision des échecs pour essayer de les éviter au maximum. Mais bon, j'ai l'impression qu'on en a toujours, mais après, j'ai pas un gros échec particulier en tête. Tant mieux, hein, parce que ça viendra peut-être un jour, mais là, pour le moment, ça va.
Je raconte les trucs ratés des grandoises, c'est ça ?
C'est hyper difficile. Enfin, y a plein d'histoires d'engueulades, de trucs foireux à raconter, en fait. Enfin, je sais pas si c'est bien de faire la liste, mais il y a plein de... Je sais pas, par exemple, moi, le moment où on a décidé de prendre une entreprise de ménage pour nettoyer derrière la soirée de la lingerie, pour moi, ça a été une forme d'échec parce que j'aimais le fait de me dire qu'on pouvait aussi prendre soin jusqu'à la crasse que les Parisiens qui venaient boire des bières laissaient dans notre salle, nous-mêmes, petits bobos blancs. Et puis, à un moment, en fait, tu peux pas tout résoudre au même endroit, quoi. Donc, quand j'ai vu que, du coup, les agents de ménage qui venaient, bah oui, c'est tous des gens qui te ressemblent pas parce qu'en fait, c'est des gens qui font des métiers parce qu'ils ont pas le choix de les faire. Ça, pour moi, c'était une forme d'échec. Ensuite, tu peux pas faire 80 heures semaine, être payé au montant où t'es payé et puis, en plus, faire le ménage tous les samedis soirs, quoi. Donc, faut savoir se ménager soi aussi et prendre soin de soi. Donc, faut prendre des décisions parfois qui sont à l'encontre de ce que toi t'aimerais pouvoir réaliser. Sinon après, je pense qu'il y a des questions aussi avec l'alcool où il y a des choses difficiles qui ont été moins bien gérées dans les relations, notamment avec les travailleurs sociaux. Je pense qu'on aurait pu arriver avec des manières de se rencontrer moins abruptes en fait au démarrage du projet où en gros nous on est arrivés pas de sub, rien, pas de salaire. Enfin. Il fallait qu'on avance, quoi. Il fallait trouver des moyens de faire des recettes. Donc, on a vendu de la bière pour au moins pouvoir payer la prog et puis 2-3 salaires pour que les gens restent sur une constance. Et puis, du coup, tu as moins le temps à consacrer dans le lien que tu peux avoir avec pas tellement les résidents, parce qu'en fait, on les voyait dans les rues au quotidien, mais plus les gens qui les accompagnent. Donc, ça, je pense que sur d'autres projets qu'on commence, on essaye de faire mieux sur ça. Donc, les personnes qu'on accueille avec d'autres structures à Marseille. Par exemple, ça se passe beaucoup mieux avec les travailleurs sociaux parce qu'on a appris de nos erreurs, du coup, et on essaye de trouver les enceintes de discussion, les enceintes de présentation, les manières de se connaître petit à petit les uns les autres, qui sont du coup moins abruptes que comme on a commencé au Grand Voisin. Ça, pour le coup, je pense que de ne pas zapper l'étape de se présenter et se dire qui on est, après, ça peut être de plein de manières différentes, mais en tout cas, le moment de la rencontre, il n'a pas eu lieu, enfin, il a eu lieu de façon accidentelle au Grand Voisin. Avec les travailleurs sociaux, parce que machin rentre dans le centre. Donc ça, par exemple, c'est des choses auxquelles on fera attention dans les prochains projets, je pense. J'ai plein d'autres exemples, mais...
En fait, il y a eu plein de micros. Le droit à l'erreur quand même fait partie de ce type de projet. Donc ça, c'est... On a le droit d'échouer, de recommencer, de réessayer, et de réessayer encore, ce qui fait qu'à la fin, c'est plutôt une réussite, mais en fait, c'est des micros, des plein de petits problèmes, des gros problèmes, mais qu'on dépasse parce qu'il y a cette horizontalité. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un travail, en fait, une méthode qui est quand même tout de suite, qui peut expliquer aussi les difficultés avec les travailleurs sociaux. On est quand même, nous, formés dans un truc hyper normé. Donc, tu rentres pas comme ça dans le centre... Tu parles pas comme ça, voilà, tu t'accèdes pas comme ça à l'héberger. Et puis, avec une forme de toute-puissance, hein, bon, je le dis, les collègues sont derrière, hein, ils acquiescent parce qu'on travaille beaucoup. On s'est plutôt dit, dans aussi notre vision engagée, qu'on allait aussi apprendre de ce que vous mettiez en place. Et cette forme d'horizontalité, elle annihile, en fait, la casquette de chacun. Qui est vachement bien pour l'héberger. Parce que lui, il se dit, super, je vais construire une terrasse ou je vais participer à tel truc dans l'espace des grands voisins. Mais nous, elle est où ma place dans ce truc-là ? Je suis quoi ? Quel est mon lien privilégié avec la personne ? Non, t'as pas de lien. Utilise plutôt cet espace-là qui crée une horizontalité où il n'y a plus de hiérarchie, comme un espace tiers où tu vas pouvoir peut-être créer une relation autre avec la personne que tu accompagnes, qui ne va pas être juste le référent administratif, le référent social, etc. Ce que nous on fait, en fait, nous on se rapproche de ça, bon, en tout cas avec, je vais dire, mes équipes, parce que nous on fait pas mal ça dans les cafés, par exemple, ou dans l'espace en dehors du centre. Parce que tout ne se résout pas dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est concret. Alors, c'est pratique, parce que quand tu vas avoir une discussion un peu... tu as l'espace extérieur, qui nous permet aussi de parler de certains sujets en dehors d'un bureau. C'est là où vous avez bouleversé aussi des pratiques sociales, et c'est pour ça qu'on voudrait qu'on se lance un peu dans cette démarche-là, de réfléchir à qu'est-ce que ces activités mixtes, ces autres activités... nous pousse, nous, en tant que travailleurs sociaux, dans notre pratique, et nous bouleverse dans notre toute-puissance, dans le rapport... Et on s'enferme là-dedans, parce qu'on n'a pas on peut plus avoir toutes les réponses. Quand tu ne peux pas résoudre la situation des gens, parce que la situation administrative n'évolue pas et n'évoluera pas pendant quelques années, donc en gros, tu ne peux pas faire d'ouverture de droit, il n'y a pas de sécu, y a, etc., etc., tu fais quoi? Ah ben la personne, c'est pas... La personne, ben il n'y a rien à faire, la situation est bloquée. Vous ouvrez une alternative face à ces situations-là. Ben non, la situation n'est pas bloquée, la personne n'est certainement pas bloquée, elle bouge, sinon c'est 70% de nos personnes accueillies, hein. 70% majoritairement, aujourd'hui, sont en situation d'inconfort administratif, comme je dis. Et donc concrètement, on continue à vivre, on continue à se battre, on continue à aimer, on continue... On a envie de rencontrer des gens, on a envie de s'impliquer, on se met derrière le bar, là, oui, ben, on sert de la bière, mais on rencontre des gens, c'est un lieu de rencontre. On participe aux travaux, on est là, on existe, on est présent, on est palpable, on a le cœur qui bat, et ça ne s'arrête pas au papier, quoi. Et je pense que ça bouleverse, nous, nos pratiques. Et c'est difficile, hein, c'est pas simple, hein, mais il faut créer une école alternative du social avec vous.
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Pour moi, l'intervention de Siem pose aussi la question... de la manière dont sont prises les décisions dans ces lieux tiers. Est-ce que, pour être accueillant, un lieu doit nécessairement être démocratiquement géré ? Est-ce que cette horizontalité amène quelque chose à l'accueil ? Et comment le mode de gestion, de gouvernance d'un lieu influe, selon vous, sur son hospitalité ?
Chez nous, ces questions-là, elles sont toujours... on s'est beaucoup structuré là dans les dernières années, et donc je vois à quel point le fait d'essayer de construire des instances de gouvernance, ça fiche des choses, ça génère des tensions. Alors que quand on a commencé le projet, où on était 7 là, et puis on a très vite grossi, mais c'était ben, t'es en capacité de le faire, tu le fais quoi. Et puis du coup, si toi tu sais pas le faire, demande de l'aide et on va certainement t'aider en fait. Donc du coup, enfin, je sais pas à quel point c'est démocratique, pas démocratique, mais si tu essaies d'avoir le souci que la personne qui est pas en capacité de faire, elle puisse faire quand même en lui apprenant et en lui transmettant des, ne serait-ce que la clé de l'atelier pour avoir des outils pour fabriquer ton truc. Dans ce cas-là, ça va quoi. Si ça reste ouvert, moi par exemple, je sais pas bricoler, j'ai quand même réussi à faire des trucs au bon voisin, tu vois. Donc je sais pas. Enfin nous, en tout cas, je vois. À quel point ces mots de gouvernance et les instances, à quel point elles peuvent être utiles et à la fois à quel point elles peuvent nécroser de la spontanéité et puis de l'envie d'agir chez les gens. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver sur ça. Parce que sinon on peut décider, enfin, discuter pendant des mois et des mois sur quel texte on va écrire et comment on va s'y prendre pour l'écrire. Et à un moment, prends la plume, écris et puis partage avec les autres pour qu'ils corrigent et qu'ils critiquent. Mais il faut commencer par un bout quoi, à faire. Donc, je suis assez en général mal à l'aise avec tous ces grands mots. Moi, ce qui compte, c'est la manière dont les gens s'emparent des lieux et puis des outils qui sont là dans ce qui est fait, qu'est-ce que ça génère comme lien, comme histoire, et souvent tu vois de la beauté là-dedans, quoi.
Oui, enfin, je pense que du coup. Il y a ceux qui se battent pour avoir du pouvoir, bon ça c'est un truc à gérer, mais le pire c'est ceux qui se battent pas pour l'avoir. C'est ça le plus frustrant. Parce que essayer de faire en sorte de créer quelque chose d'horizontal avec que des gens qui veulent participer, ça va. Il y a des techniques et puis on s'en sort. Mais par contre, pour que quelqu'un devienne actif et se sente légitime à agir, se sente légitime à parler, ça par contre c'est un défi je trouve bien plus important. Et là... Enfin, je pense qu'on est toujours en apprentissage hein, de voir ce que les uns et les autres trouvent, parce que d'une personne à l'autre, c'est pas du tout le même déclic. Tu vois, je parle du déclic qui fait que quelqu'un va rester dans un lieu parce qu'il s'y sent bien, ça peut être un seul mot, un comportement, un regard. Là, c'est un peu la même chose. Ça se joue à pas grand-chose que quelqu'un participe ou non. Des fois, ça bascule sur un truc... Enfin, en général, ça bascule sur un truc inattendu, quoi. C'est-à-dire, on a beau faire tout ce qu'on veut pour que les gens s'impliquent, en général, ils s'impliquent pour une raison qui n'était pas vraiment prévue par qui que ce soit, quoi. Donc, ça reste des... Après, je trouve ça assez passionnant aussi, ce genre de défi, où on a l'impression que, de toute façon, ça sera toujours un sujet, quoi. Mais bon, après, j'ai tendance à me dire faut pas dramatiser. Alors c'est le côté aussi des squatteurs de bon, mais c'est pas grave, on ouvre un autre lieu, quoi. C'est-à-dire voilà, il faut qu'il y ait une diversité, on va pas tous être d'accord, dramatisons pas. Si ce projet là vous correspond plus, faut qu'on soit solidaire, on en trouve un autre qui vous correspond, si vous avez besoin d'un coup de main. Enfin, nous, ça est souvent sorti comme ça, quoi. Quand même, il y a des divergences, c'est bon, écoute, on va trouver un autre lieu. Si vous avez besoin, on file un coup de main, quoi. C'est le geste de soutien. Si on voit pas les choses pareilles ou ce qui se fait ici vous correspond pas grave. C'est pas les lieux qui manquent, quoi. Donc moi, j'ai l'impression qu'on s'en sort souvent en se disant c'est pas grave, on en crée un autre, quoi. Et que de toute façon, il faut plutôt des réseaux de lieux qui fonctionnent différemment avec des modèles hyper différents. De toute façon, on n'est pas là pour faire comme l'État, essayer de faire rentrer tout le monde dans une case avec des dispositifs, essayer de minimiser le nombre de dispositifs et leur donner toujours des idées simplistes qui marchent pas. On est plutôt, nous, du coup, sur le fait de dédramatiser tout ça. On n'est pas l'administration. Donc tant mieux si c'est une nébuleuse. Et tant mieux si c'est plutôt un réseau de trucs qui fonctionnent différemment, mais qui arrivent à un moment quand même à avoir des rapports intelligents entre eux, quoi.
Alors bonsoir à tous. Donc merci pour ces interventions. J'aurais deux questions. Alors je voulais savoir, dans un premier temps, la mairie de Paris, quel regard elle portait sur le site et s'il souhaite refaire un projet similaire. Et ma deuxième question, c'est par rapport au lieu qui a une identité forte aujourd'hui. Et on est plutôt à la fin du projet, la saison 2. Il y a actuellement en parallèle la construction du futur écoquartier. Je voulais savoir, dans cette situation-là, comment on fait pour garder l'identité forte du projet, étant donné que c'est en transition. Certains bâtiments, on n'a plus accès. Des associations sont obligées également de partir parce que c'est la fin de leur contrat. Donc comment on fait pour maintenir une identité forte avec moins d'espace, moins d'acteurs? Et aussi, je voulais savoir si vous avez un regard sur la future population de l'écoquartier. Est-ce que ce serait possible, éventuellement, qu'il y ait une partie des logements pour des personnes en situation de réinsertion ou des logements sociaux qui, enfin, voilà mes questions.
Alors, du coup, pour la situation des grands voisins, après, il y a d'autres situations. On a cette discussion avec les aménageurs régulière, et puis un projet politique assez fort qui était porté par la maire du 14 et la mairie centrale d'installer au moins 50% de logements sociaux sur le site. Donc ça, on sait que déjà il va y avoir un CHU, il va y avoir une pension de famille, il va y avoir un office foncier solidaire, je sais plus comment on dit, où en gros t'achètes les murs et pas le sol, donc du coup tu peux accéder à la propriété à des prix qui défient toute concurrence dans Paris. Donc il y a déjà ça. En fait, je pense qu'on n'y serait pas allé aussi loin si on savait pas que déjà le projet politique porté pour l'endroit était pas... j'aurais dû noter les questions, mais... comment on fait pour garder une identité? C'était ça.
Ma première question, c'était la mairie de Paris, quel regard elle avait sur donc le site des grands voisins, et est-ce qu'ils souhaitent refaire un projet similaire?
Ben, il y a eu la charte qui a été signée, où du coup, on pense que les grands voisins ont quand même pas mal influencé le contenu. Donc on espère qu'avec la ribambelle de promoteurs et d'acteurs qui ont signé la charte, il y a d'autres lieux qui... Enfin, j'imagine que c'est par là que les politiques expriment le fait, en campagne électorale, qu'ils puissent avoir envie qu'il y ait d'autres endroits qui portent des valeurs similaires. En tout cas, il y a les 5 toits qui a ouvert, il y a l'hôtel Marceau, il y a des petites choses. Ensuite, le temps du process institutionnel, il est assez long parfois. Donc je pense qu'il porte un regard qui est encore assez positif et qu'ils ont appris aussi de cet endroit-là, j'imagine. Et pour garder l'identité, on garde une grosse partie des gens qui y sont, on continue de travailler de la même manière, en ayant les mêmes exigences, qui sont portées sur l'accueil, sur la manière de rendre les choses le plus accessibles possible au plus grand nombre. Il y a aussi un peu de questions esthétiques, on garde le même logo, on garde des trucs de com, quoi. Il y a quasiment 50% des structures qui étaient installées au Grand Voisin dans les locaux actuels qui ont été reconduites, en fait. Donc, du coup, ça a contribué à... Puis après, il y a aussi l'enjeu de ne pas se scléroser dans un truc qui continue avec toujours les mêmes. C'est important de pouvoir laisser sa place, donner la chance à d'autres, et puis de continuer à porter les valeurs.
Cause commune.
À Toulouse, tu disais que vous avez reçu un soutien des acteurs publics, de la mairie. Comment est-ce qu'on gère juste aussi le fait d'être soutenu, mais de s'en faire récupérer? Et comment est-ce qu'on gère des distances politiques qui peuvent être importantes alors que sur le terrain, on fait le même projet?
Ouais, alors je résumerai pas ça, on a été soutenu. Parce qu'en fait, c'est jamais la question qu'on pose. C'est-à-dire, sinon, ça sera jamais oui. Est-ce que vous nous soutenez quand on ouvre illégalement un bâtiment? Des fois, ils trouvent des tournures sympas pour en parler, mais quand je disais qu'il faut mettre certaines choses au-dessus, c'est que déjà, par exemple, quand on parlait du C10, donc, qui est quand même le truc qui a porté politiquement tout ça, on peut même pas adhérer. Donc, on n'est pas là pour faire tourner une boutique. On s'en fout que les gens fassent partie ou non du truc. L'important, c'est ce qu'ils font. Et du coup, il y a plein de gens qui font pas partie du truc, mais qui font des choses qui nous parlent. Et donc, c'est plutôt sur un projet donné, une idée, un lieu à ouvrir. C'est plutôt sur quelque chose de concret comme ça qu'on va demander le soutien. Mais c'est jamais un soutien pour la globalité de nos démarches, qui je ne sais même pas d'ailleurs à quoi elle se résumerait, on n'a pas besoin de le savoir. Mais c'est plutôt retrouver le tronc commun, quoi. Et effectivement, on tombe là sur des choses humanistes, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut savoir miser sur l'humanité, présent en chacun, qu'il soit à la rue ou non, qu'il vote, qu'il vote plus, qu'il soit de droite, de gauche. Enfin, je veux dire, je pense que face à la situation dans laquelle on est, si on ne va pas chercher cette part d'humain, c'est plutôt le construire ensemble sur cette humanité commune, quoi. Et donc, des fois, on va la chercher chez des gens qu'au début, si on s'était juste écouté, on l'aurait insulté, on serait parti. Et puis finalement, quand on arrive à trouver un terrain d'entente, des fois, c'est précieux, quoi. Notamment dans les rapports avec l'État, il y a des fois un petit truc, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais c'est pas qu'avec l'État, c'est aussi avec, certains publics, certaines personnes, ou des fois une petite marche, on a déjà l'impression d'avoir fait un grand pas, quoi. Donc c'est plutôt sur quoi on va construire ensemble. Et encore une fois, c'est là-dessus qu'on a envie de fédérer, quoi. C'est pas sur nos actions, nous on s'en fout. Il y a plein de fois, en fait, la grande majorité, parce qu'on passe beaucoup dans les médias, par exemple, il y a plein de gens qui pensent que on court après les médias. Ça doit faire 4 ans qu'on n'a pas fait un communiqué de presse. Et la grande majorité de ce qu'on fait ne passe pas du tout dans les médias. Et on s'en fout. Mais donc, du coup, la question, c'est vraiment que les choses, elles se fassent. Et après, elles prennent tout un tas d'étiquettes. En général, quand il y a un bon projet qui aboutit, ça manque pas les étiquettes. D'un coup, c'est pas le souci. Et nous, on s'en fout. Tant qu'il y a une honnêteté dans la démarche, que, on a ouvert un bâtiment l'hiver dernier, un hébergement, 220 personnes, qui du coup, là, devrait être prolongé encore quelques années. Quand le préfet vient et qu'il est fier de lui, il a raison. C'est vrai qu'il a écouté ce qu'on disait, il a négocié avec le ministère de la Défense l'ouverture de cette résidence étudiante. Il a raison d'être content, et tant mieux d'ailleurs. Sur un projet, il y a plein de gens qui ont eu raison, parce que tout le monde a tant mieux. Et en général, un projet collectif, il y a plein de gens qui sont contents de ce qu'ils ont fait et qui sentent qu'ils ont eu une part un peu déterminante, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'on va chercher que faire tourner notre truc, quoi.
Que le succès soit accueillant également, finalement. Est-ce que il reste des questions?
Question très concrète sur comment vous avez géré des squats en site occupé. Parce qu'il me semble avoir compris que vous disiez que dans certains hôpitaux ou certaines, comment vous avez matériellement et aussi dans les relations avec les gens qui venaient travailler là au quotidien.
Alors. D'un point de vue juridique, technique,
premier truc qui me venait à l'esprit, c'était relationnel. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez? Est-ce que vous venez de leur dire on s'est installé cette nuit, comment ça va? Enfin, ou est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est comment ça va se passer?
Alors du coup, je vais parler effectivement de l'hôpital. C'est un bon exemple parce que c'est un cadre un peu complexe au niveau juridique, etc. Là, en fait, vu que quand on est arrivé à l'hôpital, nous, on est dans la même démarche d'ailleurs maintenant avec l'agence intercalaire sur Montpellier, où on est missionné par la Fondation Abbé Pierre et la préfecture de l'Hérault pour refaire ce qu'on avait fait à Toulouse. Donc ça, c'est drôle quand même d'être cofinancé Fondation Abbé Pierre, préfecture, pour refaire bouger les lignes. On est sur la même logique, déjà, que ça soit l'État qui montre l'exemple, puis les collectivités locales, etc., avant même d'aller voir le privé. Et donc, quand on a été voir l'hôpital, on avait déjà des références. Et on avait déjà essayé de les faire bouger. Ils ne bougeaient pas. Quand c'est installé, quand on a officialisé, on a prévenu la mairie, on a prévenu la police en disant qu'on pensait que les vigiles allaient faire un truc illégal et rentrer dans le bâtiment. Donc on a fait nous-mêmes venir les flics, parce que heureusement, on a bien fait d'ailleurs, parce qu'on a eu toute la sécurité du CHU qui a déboulé. Donc c'est les flics qui ont dit ah ben non, mais même nous on n'a pas le droit de rentrer, donc ils étaient emmerdés parce que avant qu'ils appellent les flics, on l'avait fait, ils n'avaient pas vu venir. L'adjoint, donc le troisième adjoint au maire a appelé, a dit mais ouais, mais ça fait 2 ans qu'ils vous disent de faire quelque chose, vous auriez pu le faire légalement, vous l'avez pas fait, bon ben ça, voilà, nous ce qu'on veut c'est que vous bossiez avec eux, c'est pas la peine d'essayer de les foutre dehors, bosser avec eux. Donc du coup le directeur de l'hôpital a appelé très gentiment et le mec osait plus faire passer un huissier alors que nous on voulait avoir un huissier, on a dû se battre pour avoir un passage d'huissier quoi. C'était le directeur d'hôpital. Oui, alors il me parlait, mais je sais pas à qui il avait l'intention de parler, quoi. Mais du coup, c'est carrément l'hôpital qui a été hyper accueillant, pour le coup, quoi. Et qui voulait surtout pas nous froisser. Oui, alors à chaque fois, on était prévenus. On a demandé un cadre légal. On leur a dit, mais là, il faut quand même qu'il y ait un huissier qui passe, qui constate l'occupation. Ah oui, mais on n'est pas dans cette logique. Non, mais si, faut pas. Donc, on a tellement retourné des fois les rapports qu'on s'est retrouvé à se battre, au contraire, pour avoir un huissier qui quand même nous file un cadre légal, qui protège le CHU. Donc c'est une façon de voilà aussi de miser sur les gens et du coup de miser sur la confiance. C'est-à-dire ce qu'on a créé au-delà du C10, de l'agence intercalaire, etc. Et c'est ce que dit la mairie aujourd'hui quand ils sont questionnés sur ce qu'on fait. Ils parlent de confiance, quoi. C'est-à-dire que notamment quand on est en fragilité au niveau légal, économique et tout, il faut au moins qu'il y ait un rapport de confiance. Et que les gens se disent, OK, on va pouvoir faire avec eux parce qu'on sait comment ils fonctionnent, on sait leurs valeurs. Et du coup, on a la confiance. Et quand on est dans le milieu squat, notamment, bah, on a un peu que l'organisation collective et la confiance. On n'a pas d'argent, on n'a pas de cadre juridique. Nous, on s'est construit là-dessus, quoi. Donc, effectivement, ça nous a permis de prendre des trucs où c'était un peu. Voilà, touchy, quoi.
Du coup, ce que je remarque dans ce que vous dites, c'est. Que, en fait, ce qui permet que ces squats marchent maintenant, c'est justement cette confiance que vous avez réussi à construire. Du coup, comment vous avez réussi sur les premiers squats, parce que, ouais, sur les premiers squats ou sur lesquels vous êtes arrivé, alors je sais pas, c'était peut-être pas forcément aussi occupé du coup, à justement faire en sorte que se crée ce lien de confiance alors que vous n'étiez pas du tout soutenu politiquement et que vous aviez aucune référence ou peu de références.
Ben on l'a fait sur 3 trucs, sur le projet, c'est-à-dire notamment nous le fait qu'on n'était pas là, on pallie à un manquement des pouvoirs publics, donc du coup on fait tout pour que ça évolue et on fait tout pour que les gens puissent en sortir. On l'a pas dit d'ailleurs, je voulais le dire ce soir, sur l'accueil l'important c'est aussi d'expliquer qu'on fait tout pour que les gens s'en aillent. C'est-à-dire que dans l'hébergement d'urgence, chez Emmaüs, les squats et tout, ce qui fait partie de l'accueil, c'est de toujours faire le maximum pour que les gens puissent facilement partir. Et ça a l'air de rien, mais c'est pas mal de travail quand même. Et c'est fondamental, je pense, dans ce qu'on fait. On est heureux d'accueillir, mais on est encore plus heureux quand des fois les gens réussissent à partir. Et donc du coup, il y a le projet en lui-même, il y a le voisinage. Ça, on trouve ça légitime de pas poser un problème de quartier, au contraire d'avoir des voisins qui soutiennent. C'est là-dessus que la mairie, d'ailleurs, quand le changement de mairie, le troisième adjoint, on lui a dit, bah oui, il y a un squat, il y a 160 personnes, et ça se passe bien avec le voisinage. Et du coup, et en plus, on proposait de payer les charges et tout, ce qui rentrait dans aucune case chez eux, quoi, mais on avait proposé. Donc, du coup, il y a le rapport de voisinage. Enfin, voilà, je pensais surtout, et puis après, la parole donnée, c'est fondamental, la parole donnée sur la date de départ. C'est-à-dire que ce qui nous sert, on ne demande pas à la mairie de raconter n'importe quoi, on leur demande pas justement de dire « Ah, on les soutient ». On leur demande de témoigner de ce qu'ils ont objectivement vu. C'est-à-dire on a toujours respecté nos dates de départ. Et si nous, on le dit au propriétaire, bof, il y croit moyennement. Si par contre, c'est la mairie qui dit « Ah ouais, ça fait des années qu'on les connaît », dès qu'ils ont dit un truc, ils se sont tenus, là, d'un coup, ça rassure tout le monde. Mais c'est quand je parle de confiance, c'est notamment, et c'est ce qu'on voit beaucoup, de toute façon, dans l'urbanisme transitoire, c'est le fait de respecter les dates qui ont été fixées, quoi. Et ça, c'est une conscience, je pense, déjà entre squatteurs, historiquement, on se dit, il y a une éthique. Voilà, s'il y a des squatteurs qui ne respectent pas les accords qu'ils ont passés, ça va nuire à tout le monde. Je pense que dans le domaine, du coup, notamment de l'intercalaire, c'est pareil, quoi. Si Plateau Urbain commence à s'asseoir sur ses engagements, indirectement, ça va nous poser des problèmes. Alors qu'aujourd'hui, on les prend plutôt comme exemple. On disait, vous voyez, localement, il y a eu déjà tout un tas de trucs. Et puis, sur des projets de ce type-là, sur Paris, vous voyez, ça marche parce qu'il y a d'autres projets qui ouvrent. Donc, c'est aussi ce truc qui dépasse complètement les entités, quoi.
Cause commune.
Si personne n'a d'autres questions, je vous propose de clore.
Oui, alors moi j'ai une bonne nouvelle. Main d'œuvre peut réintégrer les locaux. Donc ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on avait une séance du séminaire qui devait se dérouler à main d'œuvre. Donc on l'a tenue mais pas tout à fait dans les lieux. Donc c'est une excellente nouvelle et il faut continuer à se battre pour que ces lieux, c'est-à-dire que même en ayant 22 ans, je crois que c'est 22 ans, quand même de vie, main d'œuvre, rien n'est acquis. Et on a bien vu que du jour au lendemain, pour avoir été avec eux le matin même sur place, on peut fermer un lieu. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Je vous encourage à y retourner faire la fête là-bas. Et pour l'heure, je vous remercie. Merci à Aurore, merci Thomas, merci. Et je vous invite à aller découvrir l'escargot, donc cette exposition qui est juste à côté, et voilà, découvrir les artistes. Et puis il y a un petit pot aussi qui nous attend.
What have you not done for me, oh Lord, I'm grateful, Lord. I had it. What have you not done for me, oh Lord, I'm grateful, Lord. What have you not done for me? What have you not done for me? Can't imagine all you went through just for me. What have you not done for me?
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.